Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, et c'est l'heure du débat des grandes voix. Jusqu'à 19h, Nathalie, avec autour de vous ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Yannick Halimi du service politique du Parisien.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci d'être là pour cette demi-heure ensemble. On va commencer avec ces violences à la fois de la part des policiers, à la fois du côté reçu aussi par les policiers. Christophe Castaner recevait aujourd'hui la famille de Cédric Chouviat, vous savez, ce livreur de 42 ans, mort après un contrôle routier, aucun policier suspendu sur les quatre. Ses proches hésitent entre colère et déception. Pendant ce temps, se tenait un rassemblement pour rendre hommage au policier Franck Labois, fauché lui par un malfaiteur à Lyon. Et puis, il y a eu aussi cette scène virale d'un policier CRS qui faisait tomber une jeune femme à Toulouse. C'était le 9 janvier. Ça fait beaucoup d'événements, hein, ces jours-ci, successivement. Emmanuel Macron a pris la parole. Il était silencieux jusqu'ici. Il a demandé depuis peu au gouvernement des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre confrontées à de nouvelles accusations de violence. D'abord, Gérard Carrérou, ces violences qu'on voit, qui se succèdent, pourquoi ?
Ben écoutez, il y a une montée, incontestablement, il y a une montée de violences dans notre société. Il y a des violences au quotidien, alors on appelle ça des incivilités ou plus graves. Il y a de la violence sociale, on vient d'en avoir des éléments. Il y a de la violence, et surtout, il y a même, on a l'impression, des violences gratuites, des gens qui tout d'un coup se mettent à se taper sur les uns sur les autres. Donc, moi, je crains, pour tout dire, je crains une dérive de notre démocratie vers une société violente à l'américaine. Je connais bien l'Amérique, j'y passe beaucoup de temps, et je suis toujours frappé quand la violence de la police... Alors là, parfois, on parle là maintenant des violences policières. Il ne faut vraiment pas avoir jamais mis le pied en Amérique pour imaginer ce que c'est que des violences quand il y a une répression... et notamment d'ailleurs, je dois dire, souvent elle prend un aspect racial, puisque c'est souvent à l'égard de la communauté noire, mais les violences sont terribles. Et les types qu'on jette à terre et qu'on étrangle à moitié et qui meurent, c'est pas le... Là on est à juste titre indigné de l'affaire Chouviat, parce que c'est indigne, mais je veux dire, ça arrive assez fréquemment dans les villes américaines. Et je redoute qu'on arrive à une situation de... Alors donc le président de la République a raison de dire attention, il faut faire quelque chose. Oui, mais... c'est plus facile à dire ça que de trouver des remèdes, parce que la violence, elle est de tous les côtés.
La violence, elle est de tous les côtés. Et d'ailleurs, le discours des pouvoirs, enfin du gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Édouard Philippe, il n'est pas le même selon les jours. Hein. Il a été modifié. On est un peu sur une ligne de crête, Charles Villeneuve, dans ce dossier des policiers et des forces de l'ordre confrontées à de nouvelles accusations de violence pour le gouvernement ?
Moi, je crois qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre comment la doctrine d'emploi des forces de sécurité a largement changé. Elle était, à partir de 1986 et la mort de Malik Osikine, la préservation avant tout de la vie humaine plutôt que la protection des biens. Ça a un peu évolué, ce qui l'a fait évoluer. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, on a enseigné dans les écoles de police ce qu'on appelle la technique de l'autocontrainte, c'est-à-dire ne pas rendre un coup contre
qu'on
un
a
coup,
reçu.
Et surtout ne pas le rendre plus fort que celui qui a été donné aux forces de police. Bon, et ce qui a tout changé, c'est l'arrivée des Gilets jaunes. Et notamment, le point névralgique de l'évolution de la technique et de l'utilisation des forces de l'ordre, c'est surtout la mise à sac de l'Arc de Triomphe et l'incendie du Fouquet's. À partir de là, bien sûr, la technique d'intervention s'est faite plus rapide, plus musclée et donc plus à risque. Ouais. Et c'est à partir de là, avec un phénomène nouveau, c'est que contrairement à tout ce qui s'était passé historiquement, c'est qu'on filme maintenant et qu'on met en plus le film sur les réseaux sociaux.
Évidemment.
Et dès lors, et bien évidemment, il y a une sorte de... Il ne faut pas oublier aussi que le recrutement de la police a beaucoup changé, qu'il se fait beaucoup dans la périphérie, dans les banlieues, et que les policiers qui sont agressés se lâchent beaucoup plus facilement qu'avant aussi.
Yannick
et donc, vous avez les effets que vous pouvez constater et dont on vient de parler.
Yannick Halimi, je parlais d'embarras peut-être. Je posais la question de l'embarras des pouvoirs publics et de Castaner quand il s'agit des policiers, de ligne de crête, parce qu'on voit, on ne peut pas désavouer les policiers quand on est un gouvernement, n'est-ce pas ? On peut les rappeler à l'ordre, mais il faut mettre...
Tout à fait. Alors surtout le ministre de l'Intérieur qui doit s'appuyer et qui doit avoir la confiance, une confiance réciproque et puis même des intérêts bien compris entre le ministre et les policiers. Vous avez tout à fait raison. Juste, je rajouterai peut-être, et après je répondrai à votre question, Nathalie. Le changement de doctrine, effectivement, de façon quasiment officielle, est intervenu pendant les Gilets jaunes, mais cette montée quand même de rapports de force différents entre des manifestants et la police remonte à Nuit Debout et aux événements qui ont eu lieu au moment des manifestations contre la loi El Khomri. En général, c'est ce que disent les policiers là, et puis même les représentants des manifestants de l'époque disaient qu'il y a eu un peu un tournant, mais c'est vrai que le changement de doctrine était plus officiel. Mais au moment des Gilets jaunes. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un problème et on ne sentait pas jusqu'à présent depuis un an comment le ministère de l'Intérieur, les pouvoirs publics et l'exécutif en général géraient ce problème-là parce que tout le monde voyait bien qu'il y avait des violences sans essayer de rejeter la faute sur l'autre. Et vous avez raison, Nathalie, les pouvoirs publics, M. Castaner, devaient défendre ses troupes, sauf qu'au regard de tout ce qui se passe en ce moment, de l'accumulation de ces violences. Moi, j'étais en contact tout à l'heure avec des familles de victimes et avec les avocats de victimes, certains avocats de victimes, qui me disaient que depuis 48 heures, 24 heures, on assiste de la part des pouvoirs publics, et notamment de Christophe Castaner, et avec la prise de parole d'Emmanuel Macron, à une bascule vers justement la prise en compte en priorité, des problèmes posés par la violence des policiers.
On hausse le ton du côté des pouvoirs publics. Donc, on en reparle dans un petit instant, évidemment, parce que, encore une fois, le ton a changé ces derniers jours.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix qui se poursuit jusqu'à 19h comme chaque soir avec, bien sûr, vos interventions en direct au 39-21. Et ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Yannick Halimi du service politique du Parisien.
Et Abdelkrim également qui est avec nous depuis les Hauts-de-France. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir même. Bonsoir.
Bienvenue au micro d'Europe 1. Vous, je crois que vous avez subi l'hostilité policière. Hein.
Oui. Moi, je l'ai très mal vécu. Mais ça remonte à 2018, où j'ai été discriminé par rapport à mes origines par un policier de Roubaix, avec la totale complaisance du commissaire de Roubaix et puis de Castaner, parce que je lui ai écrit avec des preuves, bien sûr, mais personne ne nous écoute. Et c'est là qu'on découvre que il y a un mot maintenant, la valeur probante. La valeur probante, ça veut dire qu'un policier peut déclarer ce qu'il veut, où il l'entend, et comme il veut, comme bon lui semble. Et il peut vous briser. Rien qu'avec un trait de plume mensonger. Il peut faire ça. Voilà.
Alors, ça s'appelle de la dérive sécuritaire.
Oui. Alors au niveau dérive sécuritaire, c'est vrai. C'est le sujet. C'est vrai. Là, maintenant, il y a vraiment une rupture. Pour moi, la rupture est consommée entre le peuple, les gens qu'on n'écoute pas, et les forces de l'ordre, et le gouvernement, et les politiques.
Merci.
Parce que quelque part, les gens qui pouvaient avoir des références, étaient des référents pour nous. On ne s'y retrouve plus. Ouais. Les politiques, ils dérivent, ils se remplissent les poches, mais sans aucun état d'âme.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelkrim. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis les Hauts-de-France ce soir. Vous entendez, Yannick Halimi, la méfiance, la défiance.
Oui, justement, je retiens de ce que vient de dire ce monsieur, je retiens ce côté, cette cassure sociétale entre... Et je crois qu'effectivement, dans l'histoire de France, il faut remonter. Il y a eu des périodes très dures au moment de la guerre d'Algérie. Il y a eu, effectivement, les policiers ont été... Ils ont donné pas mal de victimes. Enfin, ils ont à la fois fait des victimes, ils ont été victimes. Ce sont dans ces périodes très, très dures. Et là, effectivement... De temps en temps, je me mets dans la peau d'un policier et je me dis, on peut quand même comprendre. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui font la chasse à la police. Qui font la chasse à la police dans les banlieues, qui font la chasse à la police... Il y a des casseurs qui cherchent la bagarre avec la police. Et les flics ont l'impression, ils ont une impression, alors elle n'est peut-être pas tout à fait juste, ils ont l'impression qu'ils deviennent peu à peu eux-mêmes des victimes non défendues.
Des cibles.
Et du coup... Et du coup, ils n'ont respecté, en tout cas. Et quand on leur dit, eh bah oui, on vous aime plus, on vous déteste, etc., et qu'on leur crie ça à quelques centaines de gens, ils finissent par le croire. Et il y a un moment où ils se rebiffent. Et quand je vois le croc en jambe, c'est pas grand chose, le croc en jambe, avec cette femme qui tombe. D'ailleurs, elle se remet sur ses pieds dans la seconde. Ouais, c'est pas un événement mondial. Mais il y a quelque chose là. C'est un flic qui a dit, eh bah, toi, tu veux nous enquiquiner, eh bah, voilà, je vais te montrer qu'on peut aussi faire ça.
C'est ce qu'ils ont dit du côté, évidemment.
Donc je les comprends d'une certaine manière.
C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Il a rappelé ce week-end que les policiers font un métier extrêmement difficile, qu'ils se font insulter, cracher dessus, balancer des pavés. Ils doivent rester calmes. Et dans le même temps, on voit, on essaie d'avoir un équilibre. C'est pour ça que je parlais de ligne de crête. Parce qu'il ne s'agit pas de les désavouer, ces policiers. On se souvient, après les attentats de 2015, on se souvient de la ferveur de la population, de cette unité, hein, de ce mouvement très fort. Les policiers, ils étaient aimés. Et aujourd'hui, alors certes, ils sont exsangues, mais on voit bien qu'il y a cette dangereuse logique qui est peut-être en train de s'installer. Eugénie Calimi.
C'est une logique qui, en tout cas, c'est une spirale infernale, qui pourrait être cassée. Encore, Dieu merci, on est dans un système démocratique, on a des excès d'un côté, des excès de l'autre. Quelquefois, le politique prend la parole pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cette, entre guillemets, dans cette anarchie et dans cet extrémisme. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Le Abdelkrim qui parlait disait fort justement, il y a une rupture. Il n'y a peut-être entre le corps politique et la société à travers le soutien semblait-il inconditionnel apporté par les pouvoirs publics aux policiers. Je pense qu'on n'est pas encore à la rupture et que ce climat de défiance qui est réel, ce risque de rupture entre les pouvoirs publics et l'opinion publique à travers le soutien encore une fois apporté aux policiers peut encore se reconstituer. Il n'est pas question de dire les policiers sont les gentils ou les policiers aujourd'hui sont les méchants, mais il est dans l'autorité de l'exercice et la mission du politique que de rappeler à l'ordre, dans le bon sens du terme, les devoirs. Les droits, bien sûr, mais les devoirs de la police en matière de maintien de l'ordre et d'utilisation, par exemple, d'armes ou de méthodes, par exemple, comme le plaquage ventral, qui est considéré comme illégal par l'Europe.
Parce qu'un rempart ne peut être suspecté de dérive sécuritaire, c'est ce qu'on commence à entendre, cette petite musique du côté du pouvoir. On s'en parle dans un instant de cette rupture, cette fois, entre les papes, n'est-ce pas, Charles Villeneuve? C'est juste après ça.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Yannick Halimi du service politique du Parisien.
Y a-t-il rupture entre les deux papes? Dans un ouvrage à paraître demain, et dont le Figaro a publié les premiers extraits d'ailleurs, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, 92 ans, ancien pape, se montre très critique envers l'actuel, le pape François. Il l'attaque notamment sur la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés en Amazonie. Le pape Benoît doit rendre sa décision dans les prochaines semaines. Alors depuis, c'est un peu une espèce de confusion sur qui a écrit cet ouvrage. Normalement, sur le papier, c'est signé donc de Benoît XVI et de Robert Sarah, un cardinal ultra conservateur. Sauf que, depuis, l'ancien pape allemand a demandé que son nom soit retiré de ce livre controversé. Selon son secrétaire particulier, sa signature doit être enlevée, etc., etc. Charles Villeneuve, que se passe-t-il entre l'actuel souverain pontife et son prédécesseur?
Enfin, il se passe surtout cette affaire des deux papes. Pose directement au pape François, le titulaire actuel, pas le pape émérite, Benoît XVI, une question qui me paraît, moi, primordiale. Quelle est sa capacité réelle à faire évoluer l'Église au-delà de ses prises de position personnelles? C'est-à-dire avoir plus de sympathie pour les homosexuels, pour les divorcés, pour les pauvres, pour l'immigration, etc. Quel est son degré, si vous voulez, réel de contrôle sur l'appareil de direction de l'Église? Parce qu'on voit bien là, avec le cardinal Sarah, que pointent tous les ultra-conservateurs, ceux qui, de toute façon, au sein de la curie romaine, c'est le gouvernement, c'est à la fois Matignon, Bercy et le Quai d'Orsay. Et donc là, au sein même de ce gouvernement de l'Église, vous avez toute une série d'ultra-conservateurs qui sont souvent d'ailleurs ici des pays émergents, aussi bien l'Afrique que l'Asie. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et certains, en tout cas, militent ouvertement pour une sorte d'abdication du pape François, dont il faut se souvenir toujours que c'est un jésuite et que, comme tous les jésuites, il a vécu et il a exercé son mandat, si vous voulez, de cardinal notamment, au sein de la cité. Et donc, il y a une sorte d'opposition entre ouais. tous ces héritiers des dominicains et des jésuites, c'est assez clair. Et aujourd'hui se pose justement le problème d'un pape émérite,
bien sûr.
Qui certes est émérite, c'est-à-dire
ans,
avait donné sa
qui
parole.
Qui avait dit, voilà, terminé pour moi. Je ne serai silencieux, je ne me mêlerai plus. Voilà. Oui, et là, Gérard Carrérou,
oui,
il rompt,
je crains,
en fait, il
je
rompt le pacte de non-ingérence.
Je crains que l'ancien pape, l'ex-pape, se soit fait embarquer dans une sorte de complot. C'est un vieux monsieur très digne. Et je pense que le cardinal que Charles Villeneuve
Robert
a mentionné,
Robert Sarah, l'ultra-conservateur.
N'oublions jamais cet homme. Il se voit comme le futur premier pape noir, africain. Il est guinéen d'origine. Oui. Il était évêque de Conakry dès l'âge de 34 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... Il a certainement du coffre et du caractère. Et il incarne aujourd'hui... Il incarne quoi ? Il incarne la droite religieuse, une sorte de réaction d'une partie des cardinaux qui sont à la curie, mais qui sont aussi ailleurs. Et c'est vrai que la nouvelle... Au fond, l'Église catholique, elle décline essentiellement dans ses bastions d'autrefois, dans l'Europe. Et elle se ressource, elle retrouve des forces... Dans les nouveaux continents pour l'Église, que sont effectivement l'Afrique, l'Asie. Et évidemment, les évêques de ces pays-là sont d'une foi, je dirais, plus battante.
Oui.
Et ils sont souvent...
Correspondent parfaitement à un peu ce qui est la ligne directrice de toute la réflexion théologique de Benoît XVI, c'est-à-dire le sacrifice pour Dieu.
Voilà. Et ça, pour simplifier et pour mettre de la politique là où il n'y en a pas normalement, ils sont plus à droite.
Bah oui.
Et le pape est jugé par tous ces gens-là comme un peu trop à gauche.
Exactement.
Avec tout ce que vous avez.
Mais c'est ce que disait Charles. C'est ce que disait Charles Villeneuve. Mais bien sûr, ça, en fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est ce que disait Charles. Ça soulève une question politique épineuse.
Ah, c'est
qui va gagner l'influence, la position comme ça de son successeur. Quelle influence peut-il avoir alors que ça fait 7 ans que Ratzinger a quitté la fonction pontificale.
En tout cas, hier. Comme le disaient Charles et Gérard Carrérou, il y a une véritable opposition entre les modernes et les anciens, et même plus anciens que ça.
Très
réactionnaire, auquel, si je puis me permettre, j'ajouterais, vous parliez du clergé très conservateur et réactionnaire des pays qu'on disait en voie de développement africains.
Émergents.
Il y a aussi le clergé catholique américain qui est extrêmement conservateur et qui est en train de pousser à la roue, dans le sens très offensif du terme, le moderniste, entre guillemets, qui est François, qui en plus vous le disiez tout à l'heure, Charles, veut réformer totalement la curie. Dernier mot tout de même. Ce n'est pas seulement qu'un naïf, parce qu'à travers la mesure que pourrait prendre sur toutes les populations amazoniennes contre le célibat des prêtres, pour permettre le mariage des prêtres, François, c'est aussi une mesure extrêmement de reconquête, si je puis dire.
Par rapport à l'Église évangélique.
Exactement, protestante du Brésil et de l'Amérique latine en général. Donc ce n'est pas seulement... Tout le monde est beau,
gentil. C'est une décision politique extrêmement importante.
Exactement, qui sera rendue dans les prochaines semaines pour le pape Benoît XVI. Le pape François, c'est quand même un sacré mauvais tour qui lui est joué aujourd'hui. Merci aux grandes voix. Et les deux papes, c'est sur Netflix avec Anthony Hopkins dans le rôle de Benoît XVI. Je vous le signale parce qu'on me le signale, on me le confie à l'oreille. Il faut absolument le regarder.
Il faut vraiment le recommander.
C'est ma direction qui me le signale. Il faut le regarder. Donc achetez une télé si vous n'en avez pas, je vais faire ça.
Mais Benoît XVI est dans la position... il choisit Bergoglio en réalité, oui.
Et là, on veut savoir où est la réalité, où est la fiction.
Exactement. Voilà, ce soir, vous avez le programme. Merci les grandes voix.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Avec le programme dans quelques secondes, d'abord, c'est évidemment l'info qui revient avec Sébastien Krebs. Et puis l'invité politique, c'est Guillaume Pelletier ce soir, vice-président délégué des Républicains.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.